On pourrait trouver dans les évangiles, quoiqu'il ne nous ait transmis qu'une faible partie des enseignements du Christ, ce qu'on pourrait nommer une physique surnaturelle de l'âme humaine. Comme toute doctrine scientifique, elle ne contient que des choses clairement intelligibles et expérimentalement vérifiables. Seulement, la vérification est constituée par la marche vers la perfection. Et par suite, il faut croire sur parole ceux qui l'ont accompli. Mais nous croyons bien sur parole et sans contrôle ce que nous disent les savants de ce qui se passe dans leur laboratoire, bien que nous ignorions s'ils aiment la vérité. Il serait plus juste de croire sur parole les saints, du moins ceux qui sont authentiques, car il est certain qu'ils aiment parfaitement la vérité. Le problème des miracles ne fait difficulté entre la religion et la science que parce qu'il est mal posé. Il faudrait, pour bien le poser, définir le miracle. En disant que c'est un fait contraire aux lois de la nature, on dit une chose absolument dénuée de signification. Nous ne connaissons pas les lois de la nature. Nous ne pouvons faire à leur sujet que des suppositions. Si celles que nous supposons sont contredites par des faits, c'est que notre supposition était au moins partiellement erronée. Dire qu'un miracle est l'effet d'un vouloir particulier de Dieu n'est pas moins absurde. Parmi les événements qui se produisent, nous n'avons aucune raison d'affirmer que certains plus que d'autres procèdent du vouloir de Dieu. Nous savons seulement, d'une manière générale, que tout ce qui se produit, sans aucune exception, est conforme à la volonté de Dieu en tant que créateur, et que tout ce qui enferme au moins une parcelle de bien pur procède de l'inspiration surnaturelle de Dieu en tant que bien absolu. Mais quand un saint fait un miracle, ce qui est bien, c'est la sainteté, non le miracle. Un miracle est un phénomène physique parmi les conditions préalables duquel se trouve un abandon total de l'âme, soit au bien, soit au mal. Il faut dire soit au bien, soit au mal, car il y a des miracles diaboliques. Il surgira des pseudo-Christs et des pseudo-prophètes qui feront des signes et des prodiges capable de faire errer, si c'était possible, même les élus, lit-on dans Marc chapitre 13, verset 22. Beaucoup me diront en ce jour, « Seigneur, Seigneur, est-ce qu'en ton nom nous n'avons pas prophétisé, et en ton nom chassé les démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles ?» Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui avez opéré des choses illégitimes. » Lit-on dans Matthieu chapitre 7, verset 23. Il n'est nullement contraire aux lois de la nature qu'à un abandon total de l'âme au bien ou au mal correspondent des phénomènes physiques qui ne se produisent que dans ce cas. Il serait contraire aux lois de la nature qu'il en fût autrement. Car, à chaque manière d'être de l'âme humaine, correspond quelque chose de physique. À la tristesse correspond de l'eau salée dans les yeux. Pourquoi pas à certains états d'extase mystique, comme on raconte, un certain soulèvement du corps au-dessus du sol? Le fait est exact ou non, peu importe. Ce qui est certain, c'est que, si l'extase mystique est quelque chose de réel dans l'âme, il doit y correspondre dans le corps des phénomènes qui n'apparaissent pas quand l'âme est dans un autre état. La liaison entre l'extase mystique et ces phénomènes est constituée par un mécanisme analogue à celui qui lie la tristesse et les larmes. Nous ne savons rien du premier mécanisme, mais nous ne savons pas davantage du second. L'unique fait surnaturel ici-bas, c'est la sainteté elle-même et ce qui en approche. C'est le fait que les commandements divins deviennent, chez ceux qui aiment Dieu, un mobile, une force agissante, une énergie motrice, au sens littéral, comme l'essence dans une automobile. Si trois pas sont accomplis sans aucun autre mobile que le désir d'obéir à Dieu, ces trois pas sont miraculeux. Ils le sont également qu'ils soient exécutés sur le sol ou sur l'eau. Seulement, s'ils sont exécutés sur le sol, rien d'extraordinaire n'apparaît. On dit que les histoires de marche sur les eaux et de résurrection des morts sont fréquentes en Inde, au point que personne, sauf les badauds, ne se dérangerait pour voir un fait de ce genre. Il est certain, en tout cas, que les récits sur ces thèmes y sont très fréquents. Ils étaient très fréquents aussi dans la Grèce de la basse époque, comme on peut voir dans Lucien. Cela diminue singulièrement la valeur apologétique des miracles pour le christianisme. Une anecdote hindoue raconte qu'un ascète, après 14 ans de solitude, revint voir sa famille. Son frère lui demanda ce qu'il avait acquis. Il l'emmena jusqu'à un fleuve et le traversa à pied sous ses yeux. Le frère héla le passeur, traversa en barque, paya un sou et dit à l'ascète : « Cela vaut-il la peine d'avoir fait 14 ans d'efforts pour acquérir ce que je peux me procurer pour un sou ?» C'est l'attitude du bon sens. Sur l'exactitude des faits extraordinaires racontés dans l'Évangile, on ne peut rien affirmer ou nier qu'au hasard. Et le problème est sans intérêt. Il est certain que le Christ possédait certains pouvoirs particuliers. Comment en douterions-nous, puisque nous pouvons vérifier que des saints hindous ou tibétains en possèdent? Savoir quel est le degré d'exactitude de chaque anecdote particulière ne nous serait pas utile. Les pouvoirs exercés par le Christ constituaient, non une preuve, mais un chaînon dans l'enchaînement d'une démonstration. Ils étaient le signe certain que le Christ était situé hors de l'humanité ordinaire, parmi ceux qui se sont donnés ou au mal ou au bien. Il n'indiquait pas lequel des deux. Mais la discrimination était facile à faire par la perfection manifeste du Christ, la pureté de sa vie, la parfaite beauté de ses paroles et le fait qu'il exerçait ses pouvoirs seulement pour des actes de compassion. Il résultait de là seulement qu'il était un saint. Mais ceux qui étaient certains qu'il était un saint, quand ils l'entendaient affirmer qu'il était le Fils de Dieu, pouvaient hésiter sur le sens de ces paroles, mais étaient tenus de croire qu'elles enfermaient une vérité. Car un saint, quand il dit de telles choses, ne peut ni mentir ni se tromper. Nous, de même, nous sommes tenus de croire tout ce qu'a dit le Christ, sauf là où nous pouvons supposer une mauvaise transcription. Et ce qui fait la force de la preuve, c'est la beauté. Quand ce qui est en question est le bien, la beauté est une preuve rigoureuse et certaine, et même, il ne peut y en avoir aucune autre. Il est absolument impossible qu'il y en ait aucune autre. Le Christ a dit : Si je n'avais pas fait parmi eux des actes que nul autre n'a fait, il n'aurait pas de faute. Mais il a dit aussi : Si je n'étais pas venu leur parler, ils n'auraient pas de faute. Ailleurs, il parle de ses belles actions. Les actes et les paroles sont mis ensemble. Le caractère exceptionnel des actes n'avait pour fin que d'attirer l'attention. Une fois l'attention attirée, il ne peut y avoir d'autre preuve que la beauté, la pureté, la perfection. La parole adressée à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », ne peut pas porter sur ceux qui, sans l'avoir vu, croient le fait de la résurrection. Ce serait un éloge de la crédulité, non de la foi. Il y a partout des vieilles femmes qui ne demandent qu'à croire indifféremment toutes les histoires de morts ressuscités. Sûrement, ceux qui sont dits heureux sont ceux qui n'ont pas besoin de la résurrection pour croire et pour qui la perfection et la croix sont des preuves. Ainsi, du point de vue religieux, les miracles sont choses secondaires, et du point de vue scientifique, ils entrent naturellement dans la conception scientifique du monde. Quant à l'idée de prouver Dieu par la violation des lois de la nature, elle aurait sans doute paru monstrueuse aux premiers chrétiens. Elle ne pouvait surgir que dans nos esprits malades, qui croient que la fixité de l'ordre du monde peut fournir des arguments légitimes aux athées. La succession des événements du monde apparaît elle aussi dans l'Évangile comme réglée par une providence en un sens au moins impersonnel et analogue à un mécanisme. Le Christ dit à ses disciples : Voyez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent ni n'amassent dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Voyez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Et je vous dis que Salomon, dans tout son éclat, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Est-ce que deux moineaux ne se vendent pas un sou? Et il n'en tombe pas un sur la terre sans votre Père. Cela signifie que la sollicitude dont les saints sont l'objet de la part de Dieu est de la même espèce que celle qui enveloppe les oiseaux et les lys. Les lois de la nature règlent la manière dont la sève monte dans les plantes et s'épanouit en fleurs, dont les oiseaux trouvent la nourriture, et elles sont disposées de telle sorte qu'il se produit de la beauté. Les lois de la nature sont aussi disposées providentiellement, de telle sorte que, parmi les créatures humaines, la résolution de rechercher premièrement le royaume et la justice du Père céleste n'entraîne pas automatiquement la mort. On peut aussi dire, si on veut, que Dieu veille sur chaque oiseau, chaque fleur et chaque saint. Cela revient au même. La relation du tout au parti est propre à l'intelligence humaine. Sur le plan des événements, en tant que tel, soit que l'on considère l'univers comme un tout, ou l'une quelconque de ses parties, découpée comme on voudra dans l'espace, dans le temps, dans n'importe quelle classification, ou une autre partie, ou une autre, ou une collection de parties, bref, qu'on use des notions de tout et de partie comme on voudra, la conformité à la volonté de Dieu reste invariable. Il y a autant de conformité à la volonté de Dieu dans une feuille qui tombe, sans être vue, que dans le déluge. Sur le plan des événements, la notion de conformité à la volonté de Dieu est identique à la notion de réalité. Sur le plan du bien et du mal, il peut y avoir conformité ou non-conformité à la volonté de Dieu selon la relation au bien et au mal. La foi dans la providence consiste à être certain que l'univers dans sa totalité est conforme à la volonté de Dieu, non seulement au premier sens, mais aussi au second, c'est-à-dire que dans cet univers, le bien l'emporte sur le mal. Il ne peut s'agir là que de l'univers dans sa totalité, car dans les choses particulières, nous ne pouvons malheureusement pas douter qu'il y ait du mal. Ainsi, l'objet de cette certitude est une disposition éternelle et universelle constituant le fondement de l'ordre invariable du monde. La providence divine n'apparaît jamais autrement, sauf erreur, ni dans les textes sacrés de la Chine, de l'Inde et de la Grèce, ni dans les évangiles. Mais quand la religion chrétienne fut officiellement adoptée par l'Empire romain, on mit dans l'ombre l'aspect impersonnel de Dieu et de la providence divine. On fit de Dieu une doublure de l'empereur. L'opération fut rendue facile par le courant judaïque dont le christianisme, du fait de son origine historique, n'avait pu se purifier. Jéhovah, dans les textes antérieurs à l'exil, a, avec les Hébreux, la relation juridique d'un maître avec des esclaves. Ils étaient esclaves du Pharaon. Jéhovah, les ayant tirés des mains du Pharaon, a succédé à ses droits. Ils sont sa propriété, et il les domine, comme n'importe quel homme domine ses esclaves, sinon qu'il dispose d'un choix plus large de récompenses et de châtiments. Il leur commande indifféremment le bien ou le mal, mais beaucoup plus souvent le mal, et dans les deux cas, ils n'ont qu'à obéir. Il importe peu qu'ils soient maintenus dans l'obéissance par les mobiles les plus vils, pourvu que les ordres soient exécutés. Une telle conception était précisément à la hauteur du cœur et de l'intelligence des Romains. Chez eux, l'esclavage avait pénétré et dégradé toutes les relations humaines. Ils ont avili les plus belles choses. Ils ont déshonoré les suppliants en les forçant à mentir. Ils ont déshonoré la gratitude en la regardant comme un esclavage atténué. Dans leur conception, en recevant un bienfait, on aliénait en échange une partie de sa liberté. Si le bienfait était important, les mœurs courantes contraignaient à dire au bienfaiteur qu'on était son esclave. Ils ont déshonoré l'amour. Être amoureux pour eux, c'était ou bien acquérir la personne aimée comme propriété, ou bien, si on ne le pouvait pas, se soumettre servilement à elle pour en obtenir des plaisirs charnels. Dût-on accepter le partage avec 10 autres? Ils ont déshonoré la patrie en concevant le patriotisme comme la volonté de réduire en esclavage tous les hommes qui ne sont pas des compatriotes. Mais il serait plus court d'énumérer ce qu'ils n'ont pas déshonoré. On ne trouverait probablement rien. Entre autres choses, ils ont déshonoré la souveraineté. La notion antique de souveraineté légitime, autant qu'on peut la deviner, semble avoir été extrêmement belle. On ne peut que la deviner, car elle n'existait pas chez les Grecs. Mais c'est probablement elle qui a survécu en Espagne jusqu'au XVIIe siècle et à un degré beaucoup plus faible en Angleterre jusqu'à nos jours. Le Cid. Après un exil brutal et injuste, après avoir conquis tout seul des terres plus étendues que le royaume où il est né, obtient la faveur d'une entrevue avec le roi. et du plus loin qu'il l'aperçoit, il descend de cheval, se jette au sol sur les mains et les genoux et baise la terre. Dans l'Étoile de Séville, de Lope de Vega, le roi veut empêcher la condamnation à mort d'un assassin, parce que le meurtre avait été commandé en secret par lui-même. Il convoque séparément chacun des trois juges pour lui signifier ses ordres. Chacun, agenouillé, proteste de sa soumission totale. Après quoi, aussitôt réunis en tribunal, ils condamnent à mort à l'unanimité. Au roi qui exige des explications, ils répondent : comme sujet, nous te sommes soumis en toutes choses, mais comme juge, nous n'obéissons qu'à notre conscience. Cette conception est celle d'une soumission inconditionnée, totale, mais accordée uniquement à la légitimité, sans aucun égard ni à la puissance, ni aux possibilités de prospérité ou de malheur, de récompense ou de châtiment. C'est exactement la même conception que celle de l'obéissance au supérieur dans les ordres monastiques. Un roi, obéi ainsi, était réellement une image de Dieu pour ses sujets, comme un prieur de couvent pour ses religieux, non par une illusion qu'il aurait fait paraître divin, mais uniquement par l'effet d'une convention qu'on croyait divinement ratifiée. C'était un respect religieux, absolument pur d'idolâtrie. La même conception de seigneurie légitime était transposée au-dessous du roi, du haut en bas de l'échelle sociale. La vie publique entière se trouvait ainsi imprégnée de la vertu religieuse d'obéissance, comme celle d'un couvent bénédictin de la bonne époque.